With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Je vous ai préparé une petite chronique des familles sur un piratage qui a eu lieu il y a quelques temps, mais où entre-temps, on a eu un petit peu des news croustillantes et je me suis dit, j'ai vu la gueule de l'histoire, je me suis dit, oh, faut que je la raconte parce que c'est quand même, il y a des trucs marrants. Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, un gamin de 18 ans a réussi à infiltrer le réseau informatique de Uber. À ce moment-là, il avait littéralement autant d'accès que le CEO, voire plus même. Et entre-temps, ce qui est fou, c'est qu'on a eu des infos ultra croustillantes, ce qui n'arrive normalement jamais sur des hackings de ce genre-là. Et je vais vous raconter tout ça maintenant. Alors, c'est pas la première fois que Uber a un petit historique sur leur problématique de cybersécurité. Ça commence en 2016, où il y a notamment une dissimulation qu'ils ont faite d'un piratage de données personnelles de 57 millions de clients et chauffeurs, où en fait, ils ont dû payer une rançon de 100 000 balles, ce qui est pas énorme, en Bitcoin, à des pirates pour qu'ils ne divulguent pas ce leak. Ils vont être poursuivis par la justice parce qu'évidemment, tu n'as pas le droit de dissimuler cette information à tes clients et ils vont négocier avec la justice américaine comme ça se fait beaucoup là-bas. Ensuite, en 2020, on a revu des petits leaks de quelques centaines de comptes Uber sur le dark web. Ça, c'est pas une faille probablement. Ça doit être c'est des gens qui font du phishing en masse et qui publient ensuite. Et en 2022, il y a eu beaucoup de bruit aussi, les Uber Files, donc ce leak massif de documents fait par un certain Mark McGann qui était lobbyiste chez Uber entre 2013 et 2017 et qui va mener notamment aux révélations sur la gestion de l'affaire Uber Pop en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, où il y a eu un deal passé justement entre Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie à l'époque, qui avait fait grand bruit. Donc voilà, il y a un petit historique déjà sur Uber, mais vous allez voir que limite tout ça en comparaison de cette histoire est faible. Donc, le point de départ de ce piratage, ce serait le PC d'un prestataire externe qui travaille pour Uber.
C'est
la classique du prestataire,
tech.
Exactement. qui aurait été donc infecté par un malware. Donc, sur des screens qui ont été transmis par les attaquants à des journalistes, on peut voir notamment ces fichiers-là. Donc ça, c'est lui, c'est vraiment son écran, il est en train de faire ses piratages et tout. À un moment, on voit ça. Et en gros, ça, ce serait des fichiers de log d'un stealer qui s'appelle Redline. Alors, un stealer, c'est quoi? C'est un type de malware qui, une fois exécuté, va chercher à exfiltrer un maximum de données d'une machine. Donc, vous vous chopez un virus, si jamais c'est un stealer, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il est exécuté, il va aller regarder dans les mots de passe enregistrés sur Chrome, dans les cartes bancaires qu'il y aurait sur votre ordi, etc. Et il va compacter tout ça dans un joli fichier de log qu'il y a juste avant et qui va en gros détailler voilà, tout ce qui est inscrit dans le fichier. Comme vous l'avez pu voir sur la slide juste avant, il y a une option sur ce Redline. Donc ça, voilà, ça c'est le fichier de log. C'est moche, mais dedans, c'est vraiment des mots de passe. Hein. Ouais. Donc ça ne fait pas plaisir quant à ça. Et comme vous pouvez le voir sur cet écran de configuration de Redline, il y a une petite option qui permet notamment de récupérer des credentials, donc des identifiants, d'un VPN qui serait setup sur la machine. Ça, comme ça on dit... Un VPN, il avait une VPN? Non, c'est pas ça. C'est pas ce type de VPN.
Je vois quel type de VPN c'est.
C'est le VPN d'entreprise qui te permet en fait d'accéder à distance au réseau interne d'une boîte. Donc concrètement, une boîte, elle veut éviter d'exposer ses services internes, etc. Et donc, elle fait en sorte que tout ça soit inaccessible de l'extérieur. Heureusement, c'est pour des questions de sécurité. Mais, avec le télétravail, on a envie quand même que les employés puissent accéder à certains trucs. Et donc, on leur installe un VPN. Et donc, des credentials d'un VPN, ça veut dire que c'est comme si tu pouvais te téléporter à distance dans le bureau de Uber, en gros. Ouais. Donc déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas si simple, parce que les entreprises, elles savent que c'est un truc à risque, et donc elles vont mettre en place de la double authentification. Double authentification, c'est le SMS, la notification que tu as sur ton téléphone. Donc c'est censé garantir que même si ton mot de passe est fuite, eh ben, normalement, l'entreprise est safe. Mais non. Pas dans notre cas. Pourquoi? Il a utilisé une technique vraiment de singe, tout simplement, puisque il a. Alors ça s'appelle de la MFA fatigue. il me semble. Et donc, c'est concrètement un spam qu'il fait constamment sur ton téléphone où il t'envoie des notifications de double authentification. Donc, en gros, toi, de ton point de vue de victime, tu vois des pop-up et des pop-up et des pop-up qui te demandent d'accepter un truc de double authentification. À un moment, tu sais que c'est pas bien de cliquer sur OK, mais ça te saoule en même temps.
Ah, et tu sais pas que c'est un hack, toi. Tu dis c'est ça bug, en fait.
Exactement. Ah. Et en gros, pour améliorer encore ses chances de réussir son piratage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message sur WhatsApp à la victime en se faisant passer pour le support IT de Uber.
Okay.
Il a dit, on a un bug, surtout c'était la nuit, je crois, c'est donc chiant. Donc il a envoyé un message, on a un bug, il faudrait que tu acceptes la notification et après ça va s'arrêter. Et évidemment.
Ouais, mais c'est super louche. Enfin,
c'est super louche, mais,
ouais, mais
franchement.
Parce que de base, normalement, quand tu travailles en entreprise, le service IT ne te contacte pas sur WhatsApp.
C'est ça. Non, mais du coup, on est d'accord que ouais. Toi, tu es au courant de ça. Ouais. Mais
ça.
Le prestataire, qui a quelqu'un qui le spam à 11h du mat, ouais. il se dit flemme.
Et donc, j'en peux plus, ouais.
Exactement. Il finit par appuyer sur OK. Et là, c'est le début de la fin, tout simplement.
C'est le drame.
C'est là que concrètement il commence à avoir l'accès au réseau interne. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va scanner donc toutes les machines qu'il voit sur ces réseaux et il finit notamment par tomber sur un drive partagé, ce qu'il peut y avoir régulièrement. Il fouille ce drive et là il se met à trouver des scripts PowerShell qui permettent d'automatiser des choses sur Windows. Ça n'a pas trop quelque chose à faire sur un drive partagé en général. En général, c'est pas trop logique que ce soit là. Il se balade dedans, il fouille, et il finit par tomber sur un combo identifiant mot de passe qui permet d'accéder à un outil qui s'appelle Thicotic. Alors, Thicotic, en gros, dites-vous que c'est un peu comme un gestionnaire de mot de passe ou d'identité d'une entreprise.
Game over. Échec et mat.
Et là, c'est la merde, puisque c'est le point d'entrée magistral.
C'est le master password.
Exactement. Ouais. Et une fois que t'as ça, lui, dans son cas, il avait fait l'équivalent d'une élévation de privilège, comme on dit. Il est arrivé en tant que prestataire un peu qui avait probablement pas beaucoup d'accès dans la boîte, mais grâce à ses identifiants, il pouvait lui se téléporter en tant que, je disais, mieux que le CEO. Oui, littéralement, ouais. Parce que là, c'est le root password de toute l'IT. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, concrètement, accès au Google Drive de toute la boîte, au Google Workspace, accès au hyperviseur des machines virtuelles. Donc là, c'est-à-dire que tu as accès à l'ensemble des serveurs, accès à AWS. Donc là, si vous reconnaissez un petit peu...
Oui.
Cet endroit-là...
C'est le début de la fin.
Exactement. Là, les gens qui nous regardent, qui sont en sécurité, su.
Ouais.
Vraiment, si voir quelqu'un qui fait un screen de cet endroit dans ta boîte, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vraiment.
Chez toi, là.
Tu peux directement abandonner, puisque voilà, c'est fini. Les services financiers, il avait tout ce qu'il voulait. Je ne peux pas trop tout citer, parce que vraiment, c'est très très long, tous les accès qu'il avait. Un truc marrant, donc ça c'était les résultats financiers d'Uber qu'il pouvait partager au calme. Et un truc marrant supplémentaire, c'est qu'il avait accès à la plateforme de bug bounty d'Uber, qui, en gros, Uber a un compte sur HackerOne, une fameuse plateforme de bug bounty qui rétribue les hackers pour trouver des failles. Sauf que souvent, les failles, le deal en gros, c'est que je te donne de l'argent à toi, hacker qui a trouvé une faille, en échange, tu vas pas le crier sur les toits. Le temps que nous on la corrige, etc. Et puis on n'a pas envie de savoir que tout le monde sache qu'il y a une faille. Donc un accès au logiciel de gestion HackerOne, surtout que là en gros, donc Philippe Lee, c'est le nom du compte qu'il avait, et en gros c'est quelqu'un qui est dans la réponse à incident de la boîte. Donc c'est des gens qui ont vraiment des accès de malade mental.
Ouais.
Donc là en gros avec cet accès unique, il avait accès à toutes les failles qui avaient été découvertes récemment sur Uber, qui n'avaient peut-être pas encore été patchées, voilà, le temps que ça se fasse. Donc voilà, ça, pareil, ça pique. Ça picouille.
Mais du coup, il en a fait quoi de toutes ces données ?
Et alors, j'y viens, c'est ça qui est, entre guillemets, le pire, c'est qu'il avait accès à ça, il avait accès à l'outil de gestion, donc ce qui s'appelle Duo, qui permettait aussi de bypasser entièrement toutes les doubles authentifications de la boîte. Il avait les clés du royaume. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Absolument rien, à part troller les gens. Et donc, il s'est rendu sur tous les tickets donc de problèmes de HackerOne, etc., en disant hey, « je vous ai hacké ». Il allait sur le Slack de la boîte en disant, avec le compte de quelqu'un, en disant « Les gars, je vous ai hacké ». Personne ne l'a cru. Personne ne l'a cru sur le Slack. Imagine, t'as quelqu'un qui débarque sur ton Slack et qui te dit « Voilà, bah, moi, je suis René, j'ai le compte de René et je vous ai pawn ». Et en fait, personne ne l'a cru, tu vois. Et du coup, il a fallu au final que Uber envoie un mail qui s'appelait « Urgent, n'utilisez plus Slack » pour faire passer le message qu'actuellement, ils étaient infiltrés. Ça n'a pas marché. Vraiment, les employés n'en ont toujours pas. Et du coup, ils ont fini par fermer. Enfin, Uber a été obligé de fermer plein d'outils internes le temps de gérer cette crise, puisque vraiment, c'était... Enfin voilà, c'était une ombre qui planait sur tous les services de la boîte.
Incroyable le tweet là.
Oui, c'est ça. Donc, c'est l'employé qui partage le mail le qu'il a reçu. Là. Urgent. Fuck you, wankers. Effectivement, donc ça, c'est, j'allais y venir. Le troll ultime, pour conclure cet arc incroyable, c'est qu'il a reconfiguré donc, l'OpenDNS de la boîte qui permettait de faire pointer tous les services internes vers le bon serveur. Et donc, ça redirigeait vers une page avec de la pornographie, avec écrit
«
Je vous emmerde, bande de branleurs ».
Mais on en sait un peu plus sur la personne, genre son âge.
On en sait un peu plus sur la personne, ouais. Et notamment sur son âge.
Parce que là, c'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit.
Tu vois. D'accord. Et tu vas voir que tout fait sens, puisque on a attribué l'attaque, Uber a attribué l'attaque au groupe Lapsus, auquel appartiendrait un jeune de 18 ans. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Ils sont connus, en fait, déjà pour s'attaquer à des grosses boîtes comme ça, donc Microsoft ou Cisco, et faire beaucoup de bruit. Parce que là, si on a accès à tout ça, alors nous, c'est passionnant, parce que du coup, on a accès à des trucs qu'on ne devrait pas d'habitude. Mmh. Toutes les grosses attaques, elles sont mises sous silence, on n'a jamais d'informations dessus. Là, on a accès à des gros gamins, vraiment. Et donc, ils adorent show-off et publier tout ce qu'ils font.
Ah, mais du coup, il n'en a même pas profité pour essayer de gagner de l'argent.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils essayent parfois d'avoir des petites négociations. Ouais. Mais tu le vois dans certains de leurs messages qu'ils ont publiés, avec Microsoft ou Cisco, voilà, ils ont rien réussi. Enfin, tu vois que c'est quand même que sur le plan technique, il y a des trucs qui sont intéressants. C'est pas non plus les premiers noobs qui passent, mais on voit quand même qu'ils achètent leurs identifiants sur le dark web. Souvent, c'est ça un de leurs points d'entrée. Mm-hmm. Donc voilà, ils passent pas par des zero day ou des trucs comme ça. Donc, en termes de technicité, il n'y a rien de vraiment incroyable, mais on peut quand même les reconnaître qu'ils
sont malins.
Ils sont malins parce que voilà, avoir des accès aussi élevés dans autant de grosses boîtes, c'est quand même assez impressionnant. C'est aussi eux qui sont suspectés d'avoir leaké le code source de GTA 6.
Ouais, j'allais t'en parler là.
Exactement. Donc ça avait fait beaucoup de bruit. On pense que c'est lié à l'arrestation d'un jeune de 17 ans à Londres, qui a eu lieu peu après cette histoire de Uber.
Ouais, c'est ça, parce que c'était un gamin, GTA, c'était justement un gamin, mais lui, il avait essayé de faire du chantage justement pour gagner des
exactement.
Sous, ce qui est, en général, quand tu fais ça, tu te mets dans un autre niveau de merde ensuite.
Ouais, c'est exactement ça, ouais, c'est le groupe Lapsus. Tout n'est pas élucidé, c'est pour ça que voilà, il y a des petits trous dans l'histoire. On verra à l'avenir, par exemple, s'il y a des infos du code source de Uber qui pourraient leaker.
Oui, comme Twitch.
Exactement, parce qu'il a eu accès à tout ça. Je pense qu'une fois installé là-bas, il a peut-être fait un petit clic droit téléchargé sur la codebase, tu vois. Voilà.
Mais, du coup, ça veut dire que, enfin, en gros, là, Uber, ils sont vraiment. Ils sont dans une merde pas possible.
Oui, oui, oui.
Parce que du coup, ils peuvent même pas savoir, en fait, ce qu'il y a à l'avenir dans leur code. Il faut qu'ils changent tout, quoi.
Bah, en gros, ce qu'ils peuvent savoir, c'est. Et je pense qu'ils doivent avoir un moyen de remonter les logs, tu vois, savoir exactement qu'est-ce que lui, il a fait. Ouais. Ça, à mon avis, ça se remonte. Et ils doivent savoir aussi, à telle date, quelles étaient les failles qui étaient disponibles sur HackerOne. Et donc, ils doivent partir du principe que toutes ces failles peuvent, dès maintenant, être dans la nature. Donc, comme tu dis. Pas simple comme
situation. Simple comme
sur cette histoire, j'avais vu passer que justement des gens allaient sur des sites d'embauche et que Uber a lancé une grande campagne de recrutement en sécu et qu'ils sont en train de se remonter. Alors, est-ce qu'ils ont viré ceux qui étaient déjà là pour remplacer l'équipe? Mais ils avaient plutôt l'air d'être en train de... voilà, j'ai spoilé, désolé. Mais j'ai spoilé, pardon.
Non.
Mais en vrai, ouais, justement, j'avais vu moi ce truc-là. Uber, j'avais juste vu ça, j'étais pas au courant de l'histoire, mais c'est toujours trop tard. Quoi.
C'est exactement ça. Mais... C'est que, donc, suite à toute cette affaire, on a vu passer ce joli post sur LinkedIn de quelqu'un qui montrait les nouveaux recrutements effectués chez Uber, n'est-ce pas ? Comme tu dis, c'est toujours un peu tard, mais c'est assez marrant de voir la nouvelle motivation de recrutement de personnes de la sécurité.
Salut ! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Mais du coup, l'impact pour les utilisateurs, parce que, par exemple, moi je suis utilisatrice d'Uber.
Oui. Il y a peut-être un gamin de 17 ans qui sait où
t'es allé. Ouais, voilà. Ou est-ce que genre, je sais pas, les données de ma carte bancaire.
Non, mais on rigole, mais tu as tout à fait raison. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'Uber. On ne sait pas ce qui va pouvoir sortir.
Alors,
eux, comme d'habitude,
faire,
exactement. Eux, dans leur communiqué, ils vont être très rassurants et te dire que voilà, rien n'a été touché. Le fait est qu'en 2016, ils ont déjà un historique d'avoir masqué ce genre de choses, ce genre d'informations. Donc, objectivement, tu n'as aucun moyen de savoir et de te protéger sur cette fuite d'informations possible. C'est super.
Mais surtout que je ne vais pas faire peur, mais moi, j'ai l'habitude de travailler sur ce type de données avec mes étudiants. Parce que tu peux demander en fait, tes données, si tu vas sur la plateforme, tu dis je veux récupérer toutes mes données avec la RGPD, maintenant tu as le droit de faire ça. Et c'est un truc que je fais avec mes étudiants. Là, récemment, j'ai des étudiants qui ont bossé sur leurs données Deliveroo, par exemple, pour faire les calculs de combien ils ont dépensé et tout. Et en fait, dans Uber, c'est abuser les infos qu'ils ont sur toi. C'est vraiment énorme. Et genre, par exemple, ils peuvent savoir exactement, juste pour prendre l'exemple de Uber Eats, ils savent, par exemple, où est-ce que tu as commandé quand tu as commandé. C'est-à-dire que, imaginons que tu as commandé un plat à livrer chez toi. Si tu n'étais pas chez toi au moment où tu l'as commandé, ils ont l'info. Tu vois, c'est pour te dire la précision qu'ils ont.
Ouais, okay.
Tes trajets, ils savent où tu les as commandés, où tu as récupéré, le temps que ça a mis. Enfin, du coup, c'est pas une entreprise qui est connue pour, on va dire...
faire du data mining ou des...
Elle garde les choses, on va dire. Elle a les infos. Donc, du coup, de dire qu'il y a tout ça par rapport à la vie privée,
c'est
beaucoup. Quoi.
C'est une
grosse source de données auxquelles ils ont accès.
Moi, je me suis demandé si vous aviez dans vos boîtes déjà connu des piratages un peu importants quand t'étais... Après, peut-être, je sais pas si vous pouvez en parler facilement ou pas.
On a tout perdu.
Ça arrive dans toutes les boîtes, des incidents de sécurité.
Ouais.
Donc, si c'est pas trop précis, je pense qu'on peut en discuter.
Moi, je ne suis pas depuis assez longtemps.
pas eu le temps de te manger.
J'ai pas de dossier encore.
Ouais. Je dirais... alors, c'est pas pour moi, mais j'ai un ami qui, une personne que je connais qui bosse dans une grosse boîte en sécurité, justement. Et du coup, des fois, j'ai des petits insights de, on va dire, c'est, en fait, quand tu es une entreprise qui, notamment, a de la concurrence à l'international, tu vois, des fois, c'est carrément géopolitique, le métier de sécurité informatique, parce que tu dois faire attention à l'ingérence des autres pays, on a des attaques dans tel fuseau horaire. Moi, c'est une anecdote que j'ai eue justement, mon pote qui me disait. En fait, on voit qu'on a des attaques sur des heures de bureau, mais décalées, par exemple, je dis au hasard, mais à H+6.
Ouais.
Donc du coup, si on regarde sur le fuseau horaire, on voit qu'on est sur les heures de bureau de ce fuseau horaire. Donc c'est forcément ce pays-là qui doit nous attaquer et que c'est fait dans un cadre très concret parce que ça commence à 8h, il y a la pause à midi, et ils reprennent ensuite à 14h, c'est jusqu'à 18h, et puis à 18h, fini. Et
que
il voit, et il dit, et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ces rapports, il n'a pas le droit de faire de suppositions. C'est très politique, au final, il n'a pas le droit de dire
d'attribuer.
Bon, on pense, je sais pas, je dis vraiment au hasard. Hein, mais, on s'est fait attaquer sur les heures de bureau chinoises, donc c'est sûrement les Chinois.
Ouais.
Bah, t'as pas le droit de dire ça parce que c'est trop.
Même si t'as des forts soupçons.
C'est ça, parce que c'est presque pas une déclaration de guerre, mais c'est important, tu vois, de dire ça.
Ouais.
Et donc, du coup, moi, des fois, j'ai ce genre d'anecdote donc, que je vis pas moi, mais bon, lui, il est un crack monumental. Mais des fois, il me raconte des trucs et je suis en mode, c'est sympa. Et puis,
Mais c'est vrai que ce truc n'est pas forcément connu que. Il y a une taille d'entreprise et aussi une suivant la criticité du business que tu fais, où il y a un moment où tu commences à devoir te rapprocher aussi d'entités étatiques, de l'ANSSI ou de trucs comme
ça. DGSE.
Exactement, puisque comme tu dis, tu passes un cap et tu commences à avoir des questions de géopolitique, effectivement, de concurrence de pays et tout.
Ça, si ton entreprise, elle est régalienne, imaginons que même tu bosses pour une entreprise qui est privée, mais dont les services sont importants pour l'État, pour qu'ils puissent tourner. Il y a eu le cas récemment avec l'affaire Alstom, par exemple, où c'était grave parce que, en fait, on perdait une entreprise qui nous faisait, je vulgarise, mais qui nous faisait nos turbines nucléaires.
Ouais.
Et donc, tu te dis, ça veut dire que là, demain, on l'a vendu aux Américains, si les Américains décident de pas nous vendre la pièce, on n'a plus de courant en France, et donc en fait ça c'est de l'ordre du régalien. Et donc quand tu fais de la sécurité dans des entreprises régaliennes, en fait t'as directement des missives de l'État qui te dit
t'as des petites formations gratos de DGSE,
vous êtes privé mais vous n'êtes pas non plus totalement privé, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et donc ça, t'as des gros insights bien intéressants, puis même juste ton histoire, et puis on avait eu d'autres histoires de hacking que t'avais raconté. Souvent, ça sort même du cadre de la tech. Parce que là, par exemple, comment ils se sont fait avoir, les gens, c'est plus du hacking social, comme on dit, tu vois, de réussir à rentrer dans la psychologie des gens. Et t'as plus des process qui sont de l'ordre de la formation de comment tu dois bosser, plutôt que techniquement maîtriser des trucs très
compliqués. Mais c'est ça qui est le plus intéressant pour conclure avec cette histoire, c'est que ils n'ont pas eu besoin d'utiliser de failles critiques pour avoir les clés du royaume de Uber, une entreprise à milliards. Et vraiment, tu regardes le process, fondamentalement, c'est achat d'informations sur le dark web, spammer quelqu'un toute la nuit jusqu'à ce qu'il dise oui, trouver un vieux serveur qui traîne avec un script PowerShell et un mot de passe en clair, fini. Genre, tu regardes ça, tu te dis, ah oui, donc en fait, on est encore vraiment très loin d'atteindre des niveaux de sécurité importants, si même eux, ils sont comme ça.
C'est qu'ils ont fait quand même, enfin, de leur part, il y a quand même beaucoup d'erreurs, tu vois, rien que le fait d'avoir ça dans le drive, la formation du prestataire, en fait, qui est, enfin, déjà, tout ça, c'était ultra critique, et,
c'est clair.
Et là, déjà, il y a...
Mais tu te dis, bah, sur ce genre de taille de boîte, qu'est-ce que ça doit être dans la taille, dans l'entreprise moyenne qui n'a pas un CA de ce niveau, tu vois.
C'est clair.
Tu te dis, en tant que hacker, à qui tu veux affronter qui ? Parce que ça va être, en fait, c'est une bataille. Est-ce que tu vas affronter l'ingénieur en sécurité informatique qui fait ça depuis 20 ans, qui a tout blindé, ou est-ce que tu veux attaquer tonton José de la compta qui s'est maîtrisé Excel
depuis deux semaines
et ça, il a un ordi que depuis qu'il vient de prendre son nouveau job, là, tu sais, il vient de découvrir comment ça fonctionne. Ouais. Et en fait, tu veux te mesurer à qui ? Et c'est vrai que, bon, bah, il y a les trucs très impressionnants de, ils ont trouvé la faille, machin, ils sont trop forts, c'est des cracks, mais attaque-toi à la personne justement qui ne maîtrise pas. Et je reviens à mon ami justement qui bosse en sécu, il m'a dit, bah nous au final tous nos problèmes viennent de problèmes justement liés à du personnel, et notre solution numéro une pour se sécuriser, c'est la formation, c'est pas le déploiement. Il dit, je code pas tant que ça de trucs de sécurité, il dit, en fait je fais des formations.
Et parce que la solidité de la chaîne, c'est celle du maillon le plus faible, donc
le mot de passe sur le post-it.
Exact.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.